Radio Okapi. Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Bonjour et bienvenue dans votre journal. Restez avec nous pour découvrir les nouvelles les plus importantes de ce matin. Décès du pape François, inhumation prévue samedi 26 avril dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. La messe des funérailles se tiendra à 10h sur les parvis de la basilique Saint-Pierre en présence de nombreux chefs d'État et dignitaires internationaux selon l'Office des célébrations liturgiques pontificales. Naufrage tragique sur le fleuve Congo, 12 passagers sauvés de justesse, mais 3 disparus dont 2 enfants après les chavirements d'un canot rapide en provenance de Brazzaville vers Kinshasa. Découvrez l'émission du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale et le bilan depuis son inauguration par le chef de l'État en décembre dernier. Baloufou Bakoupa Kanyinda, directeur du centre, répondra à toutes vos questions dans une interview exclusive avec Radio Okapi. Ne manquez pas cette opportunité unique. Passons immédiatement à ces nouvelles importantes suite au décès du pape François. Nous avons plus de détails sur les rites qui se dérouleront au Vatican jusqu'à son inhumation. Selon le programme annoncé hier mardi, le chef spirituel de l'Église catholique romaine sera inhumé samedi 26 avril dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. La messe de funérailles du pape François sera célébrée sur le parvis de la basilique Saint-Pierre le même samedi à 10h comme la rapporté l'Office de célébration liturgique pontificale. Les détails avec Michel Kifindangoy.
Décédé lundi à 7h35, le pape François sera inhumé samedi prochain dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, conformément à son testament. L'inhumation sera précédée par la messe des funérailles, qui sera présidée par le cardinal Giovanni Battistare, doyen du collège cardinalis, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Au terme de la messe, le cercueil du souverain pontife sera ensuite transporté de la basilique Saint-Pierre vers la basilique Sainte-Marie-Majeure pour l'inhumation. Hier mardi matin, une soixantaine de cardinaux ont participé à la première congrégation générale. Les cardinaux ainsi que les collaborateurs du Saint-Père se sont recueillis jusqu'à minuit sur la dépouille du pape François en la chapelle de la maison Sainte-Marthe avant son transfèrement en la basilique Saint-Pierre ce mercredi où elle sera exposée aux fidèles. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont annoncé leur participation. Depuis l'annonce du décès du pape François, les cardinaux du monde entier converge vers Rome. Une fois ils seront suffisamment nombreux, les congrégations générales se mettront en place pour assurer la gestion des affaires courantes, l'organisation des funérailles et du conclave.
Comme indiqué dans le titre hier mardi, une embarcation en provenance de Brazzaville à destination de Kinshasa a fait naufrage sur le fleuve Congo, laissant 3 personnes portées disparues, dont 2 enfants. Gaston Mafungu, président du comité des canonniers, a indiqué que le canot rapide transportait 15 personnes, dont 12 ont été sauvées de justesse. Il a profité de cette occasion pour exhorter le commissaire fluvial à rendre obligatoire le port de gilets de sauvetage pour tous les passagers des embarcations. Gaston Mafungu s'est exprimé au téléphone avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ce canot rapide est parti au Congo-Brazzaville. Il a embarqué 15 personnes à bord et sur ces personnes, seulement 12 ont pu être sauvées et 3 autres sont portées disparues. Parmi les disparus, il y a une sœur religieuse et des enfants de la RDC qui étaient partis en congé de Pâques à Brazzaville. L'accident a eu lieu précisément au lieu de Brazzaville après le départ du canot. Le canot rapide a heurté un bois qui flottait sur l'eau avant d'écouler. Aucun membre de l'équipage n'a connu des problèmes, mais le canot rapide se trouve jusque-là sous l'eau. Ça sera difficile pour nous de les faire sortir de l'eau car ça nécessite des plongeurs qui maîtrisent bien la nage. Je profite de cette occasion pour demander au commissaire fluvial d'exiger les ports des gilets de sauvetage à toute personne qui prend place à bord d'une embarcation et ces gilets doivent être bien fermés pour éviter que l'eau entre.
Cet accident fluvial survient 3 mois après qu'un canonnier de l'Onatra a perdu la vie en glissant sur le quai. À Kinshasa, le gouvernement provincial informe le public qu'il procédera à la démolition de toutes les constructions illégales situées à la baie de Ngalema le long du fleuve Congo dans les 48 heures suivant la publication de ce communiqué, soit à partir d'hier mardi 22 avril. Cette mesure, selon la même source, s'inscrit dans le cadre de l'exécution des décisions gouvernementales visant à respecter les normes urbanistiques et les réglementations en matière de servitude et d'emprise publique. Elle vise également à préserver la viabilité et le bon fonctionnement des installations de l'usine de captage d'eau de la régie des eaux. Toujours à Kinshasa, les habitants du quartier Maninga, dans la commune de Ngalema, expriment leur indignation face à la persistance de l'insécurité dans leur secteur. Ils rapportent être victimes d'attaques nocturnes perpétrées par des hommes armés et cagoulés. En l'espace d'une semaine, les avenues Lac, Bomboko, Kaemba et Bazamboma ont été ciblées, entraînant le vol de biens précieux tels qu'une voiture, de l'argent et des téléphones. Ces actes de vol sont accompagnés de violences sexuelles. Écoutez le témoignage d'un habitant recueilli par Ronéline Timbonera.
Nous n'arrivons plus à dormir au quartier Maninga. Il y a des bandits, ils entrent dans nos maisons. Ils violent même, ils sont en train de violer. Ils ont violé dans une famille 3 personnes. Nous sommes vraiment dans l'insécurité. Nous ne savons plus à qui nous confier. Nous ne pouvons pas dormir. Regardez, nous les mamans, nous sommes dans l'insécurité. Ils entrent avec des machettes et le papa est là, il voit comment on viole les gens de sa famille. Nous sommes dans l'insécurité. Que l'autorité pense à nous, que faire? Nous sommes dans l'insécurité. Vraiment, que les autorités pensent à nous, qu'ils pensent à nous, au quartier Maninga. Venez nous secourir.
Rendons-nous à présent au Nord Kivu. La nuit de lundi à mardi a été marquée par de nouveaux incidents sécuritaires dans plusieurs quartiers de la ville de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo. Des vols, des tentatives de cambriolage, de personnes blessées et des coups de feu ont été signalés. De nombreuses sources concordantes rapportent que plusieurs habitants ont passé une nuit sans sommeil. Ronéline Timbonera nous fait le point.
C'est principalement la commune de Karisimbi qui a enregistré cette situation confuse. Déjà à 20h, des coups de sifflet et des sons de vuvuzela se sont fait attendre dans les quartiers Ndosho. Alors que sur l'avenue Iléo Songo, des bandits ont réussi à s'introduire dans la résidence d'un cadre de base communément appelé Nyumbakomi, tout le contenu de la maison a été emporté, affirme le témoin. Plusieurs alertes sont provenues du quartier Kasika. L'on rapporte ici les cambriolages dans une maison sur l'avenue Kilimanjaro. Non loin de là, sur l'avenue Bamaté, des individus armés ont dû posséder un jeune homme, tenancier d'un shop de télécommunications de tout son argent et de sa marchandise essentiellement constituée des téléphones cellulaires. Des cris aux voleurs ont fusé presque de partout dans les quartiers Kasika, indiquent les mêmes sources. Au quartier Mugunga, il est fait état d'une personne grièvement blessée à la machette par des malfrats qui ont pénétré sa maison. L'on parle également, sans plus de précision, de 2 personnes tuées cette même nuit par des inconnus dans une des localités du territoire de Nyiragongo, voisin de la ville de Goma. Au niveau de l'école primaire Ndosho, 2 personnes présumées être des voleurs ont été maîtrisées par les habitants. Au même moment, sur l'avenue Démocratie, de jeunes excédés par l'insécurité ont malencontreusement carbonisé une personne souffrant de démence, la prenant pour un criminel à prénom-nom.
Dans la même région, la société civile de Walikale alerte le gouvernement et les partenaires de santé sur les graves difficultés rencontrées par les structures médicales du territoire de Walikale. En effet, les hôpitaux et centres médicaux des zones de santé de Walikale souffrent d'un manque criant de médicaments. Selon le président de la société civile Force Vive de Walikale, cette situation est due au pillage perpétré par le rebelle du M23 lors de leur retrait de Walikale Centre. Écoutons Fiston Missona, nous avons joint.
Il y a au moins 4 régions de santé en difficulté dans les territoires de Walikale. La zone de santé de Walikale, la zone de santé d'Itébé, la zone de santé de Kibouya et de Pinga éprouvent énormes difficultés en termes de ravitaillement à médicaments essentiels. Il est vrai que le chef de secteur de Wanyanga a intervenu à l'hôpital général de référence de Walikale dans la zone de santé de Walikale, mais aussi à l'hôpital général de référence de Kibouya dans la zone de santé de Kibouya. Mais cela ne suffit pas jusque-là. C'est pour cela que nous alertons une fois de plus et nous interpellons le gouvernement congolais de prendre les dispositions utiles pour intervenir par rapport à la situation sanitaire. Le partenaire qui est là à la zone de santé de Walikale, précisément à l'hôpital général de référence, éprouve énormes difficultés pour justement aussi se ravitailler en médicaments suite à l'enclavement du territoire. Et mais nous voudrions que le gouvernement congolais puisse intervenir pour voir dans quelle mesure on peut intervenir pour cette population victime des affres de la guerre au Nord Kivu.
En Ituri, l'Union des associations culturelles et du développement de l'Ituri UNADI salue l'engagement de Yves Kawapanga-Mandro dans la quête de la paix pour cette province. Dans une déclaration faite mardi à Bunia, l'UNADI considère que le retour de ce chef coutumier au pays après plus d'un an d'exil en Ouganda est un signal fort pour encourager les autres acteurs politiques et communautaires à unir leurs efforts pour une paix durable dans cette région déchirée par les conflits armés. Michel Meta, président de l'UNADI appelle à la contribution de tous pour l'émergence de l'Ituri. Il s'exprime au micro de Martial Kizabiamongo.
Nous avons dit à saluer à juste titre ce retour. Nous les remercions pour avoir accepté de rentrer dans sa province pour qu'ensemble nous puissions construire la paix. La paix, c'était un élément important qui a manqué dans la province de l'Ituri et qui nécessite la présence de tous les acteurs importants qui peuvent être impliqués pour qu'on arrive à donner une solution définitive aux violences de la province de l'Ituri. Et au-delà des efforts que l'État peut conjuguer, il y a aussi des acteurs de la communauté des grands leaders comme Kawa qui peuvent aussi apporter leur soutien, leur contribution pour la recherche de la paix. C'est pour cette raison, comme responsable de toutes les communautés de l'Ituri, nous avons vraiment salué ce retour et demandons toujours à continuer à travailler dans le sens positif de la paix.
Dans la province du Kwilu, après plus d'un mois et demi d'obscurité, le quartier Malebo, dans la commune de Mayoyo à Bandundu-Ville, est éclairé à nouveau. L'électricité a été rétablie lundi soir par la Société nationale d'électricité SNEL. C'est après la réparation du transformateur de la cabine Malebo Nord qui était tombée en panne et avait plongé le quartier dans le noir. La cérémonie du rétablissement du courant électrique à Malebo a eu lieu en présence du directeur provincial de la SNEL, Prosper Bakoukou, et de plusieurs personnalités dont le vice-président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, Serge Masekandombe, le député provincial Désiré Liemvela, élu de la ville de Mbandundu, ainsi que le conseiller communal de Mayoyo, Jérémy Makofi. Le retour de l'électricité dans ce quartier est une source de grande satisfaction pour les habitants qui se plaignaient de la multiplication des vols et des actes de vandalisme dus à l'obscurité. Parlons sport dans ce journal. La phase des play-offs du championnat national commence ce mercredi. Le match se tiendra sur deux sites, Lubumbashi et Kinshasa. 12 clubs sont en compétition avec cette équipe à Kinshasa et 5 à Lubumbashi. Jean Gandou nous présente cette première journée qui déterminera les équipes représentant la RDC en compétition africaine interclub de la CAF.
Le championnat national commence avec 4 matchs, 2 à Kinshasa et 2 autres à Lubumbashi. À Kinshasa, les Anges Verts jouent contre la formation de Maniema Union de Kindu. Les Anges Verts veulent aussi prouver que ce n'est pas par l'effet du hasard qu'ils se retrouvent à ce stade de la compétition. Maniema Union les attend de pied ferme, car cette équipe de Kindu veut rejouer la Ligue des champions de la CAF, où elle a laissé une bonne impression malgré son élimination dans la phase des groupes. En deuxième heure, les Aigles du Congo affrontent l'association sportive V-Club. Les Aigles veulent voler encore beaucoup plus haut face à l'ASV Club, leur victime de la phase classique. L'ASV Club, pour sa part, veut faire mieux pendant le play-off. En Lubumbashi, le Saint-Éloi Lupopo accueille le FC Tanganyika de Kalemi. Cette dernière équipe séjourne déjà dans la capitale du cuivre, avec la détermination de défier les cheminots comme lors de la manche allée de la phase classique. Lupopo, qui ambitionne aussi de jouer l'une des compétitions africaines interclubs l'année prochaine, veut entamer de la bonne manière ce championnat. Et la deuxième rencontre concerne le tout-puissant Mazembe et le cercle sportif Dombo. Toutes les deux équipes veulent chacune glaner les 3 premiers points de ce championnat.
Actualité internationale.
Depuis le début du mois de mars, pas une once de nourriture n'a été livrée à Gaza, dont le point d'entrée demeure bloqué par les forces israéliennes. Une situation que Philippe Lazzarini, le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a une nouvelle fois condamnée sur le réseau social X. La faim d'origine humaine se propage et s'aggrave de manière délibérée, a affirmé le haut responsable onusien lors d'un point de presse à New York, Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a indiqué que plusieurs personnes sévèrement atteintes de malnutrition aiguë avaient été hospitalisées cette semaine à Gaza. En laissant la situation s'est dégradée, Philippe Lazzarini estime que les autorités israéliennes utilisent l'aide humanitaire comme une monnaie d'échange et une arme de guerre afin d'infliger une punition collective aux habitants de l'enclave palestinienne qu'il qualifie désormais de terre du désespoir.
L'invité.
Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Baloufou Bakoupa Kanyinda, directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Nous discuterons des missions de cette institution et ferons le bilan des réalisations du premier trimestre depuis son inauguration par le chef de l'État en décembre dernier. Nous aborderons également les conflits qui opposent le centre à l'Institut national des arts INA, situé sur le même site. Ils s'entretiennent avec Blaise Shindani Kambala. Suivez.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour.
Le commun des Congolais peut connaître quelles sont les missions assignées au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique.
Les missions principales assignées au centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale, c'est d'abord l'éducation à la culture. L'éducation à la culture, la sauvegarde du patrimoine. Qu'est-ce que c'est la sauvegarde du patrimoine? Par exemple, là, nous organisons quelque chose autour de Papa Wemba. Papa Wemba est un patrimoine musical. Le centre, qui est un lieu de souveraineté culturelle, doit affirmer présence de notre pays dans l'orbite culturelle mondiale. Le centre doit pouvoir affirmer notre identité culturelle et aussi promouvoir nos propres récits. Vous savez, les récits ne sont pas qu'écrits. Les récits sont du théâtre, les récits sont de l'écrit, les récits sont du cinéma, les récits sont de la musique, les récits sont du vécu. Donc le centre est un lieu qui devient un creuset pour que tous ces chapitres de notre récit national puissent se retrouver et trouver surtout du sens. Hein, c'est très important. C'est de sortir de la culture de l'immédiat, la culture festive, pour aller vers la culture de l'économie de la culture, qui suppose que derrière, il y a une création des valeurs, des revenus, et aussi une continuité dans la productivité.
L'Institut national des arts se trouve également dans l'enceinte du centre. Oui. Dans une conférence de presse, le DG de cette institution publique dit que le centre est en train d'outrepasser ses droits en s'accaparant de certaines prérogatives. Quelle est votre réponse quant à ce?
Ben, je crois connaître ses prérogatives parce qu'on a trop entendu cette chanson. Je suis en discussion, ce qui était une discussion intelligente, jusqu'à sous peu, avec la direction de l'INA depuis février 2024. J'ai toutes les minutes de ces conversations-là existent. Et nous avons préparé l'inauguration et c'est le centre qui a offert le film de présentation de l'INA. Donc le centre a fait beaucoup d'efforts. Quand on dit centre culturel et artistique, par le décret que le crée, ça veut dire tout le site sur lequel il y a l'INA. L'INA, qui est une institution respectable, qui est là depuis 1967 et que nous respectons, a l'autonomie administrative de gestion et de pouvoir dans son campus, dans ses bâtiments, qui sont définis par un plan que possède les ITPR et le centre culturel, donc la direction du centre culturel, a l'autorité, la responsabilité de gestion, d'entretien et d'administration du centre d'accueil. Évidemment, qu'est-ce que c'est le centre d'accueil et résidence créative? C'est les lieux pour accueillir des experts, des enseignants venant hors de Kinshasa, qui viennent pour des missions d'enseignement avec l'INA ou avec le centre, parce que le centre aussi est un lieu de formation, et des créatifs qui viennent pour développer des projets. Donc, quand ils viennent, on les loge là-bas. Mais on loge pas quelqu'un sans calendrier. Vous en convenez bien que quand quelqu'un vous annonce qu'il arrive chez vous, il annonce aussi une date et vous vous préparez à l'accueillir. Pour le moment, le centre n'est pas actif. Et je veux revenir sur ces points pour bien comprendre. Il nous a été demandé pour le MINAFET, le ministère des Affaires étrangères, qui avait besoin d'une salle pour faire la capture de nouveaux passeports, de concéder un espace au ministère des Affaires étrangères. C'est ce que nous avons fait avec un accord de partenariat. Parce que j'ai dit, nous sommes pas des loueurs. Nous sommes pas des loueurs d'immobilier. Donc nous avons fait un accord de partenariat. Ça peut être un PP, public-privé, mais ça peut être aussi entre institutions. Donc nous avons fait un accord de partenariat entre institutions qui est acté, qui est connu des autorités. Parce que le centre est sous notre responsabilité. Nous devons l'entretenir. Nous avons une administration pour le gérer. Quand les Chinois nous ont livré le centre, ils ont livré nous avons à peu près 46 chambres. Ils ont livré des matelas sous cellophane, sous plastique. Je pense qu'on ne logerait pas quelqu'un dans une chambre sans un minimum de confort, draps, nécessaires de toilette, tout ça, c'est important. Donc, de cet accord, nous avons tiré des moyens pour commencer à investir pour que les centres soient actifs. Beaucoup de gens qui ont des projets à venir au centre, ils demandent aussi est-ce qu'on peut loger ici ou pas. Donc, tout ça, ça rentre dans les responsabilités de la direction du centre. L'INA peut loger ses enseignants, je répète, moyennant un calendrier. Donc, on ne tape pas à la porte de quelqu'un pour dire « je vais loger quelqu'un ». Non, il faut qu'on lui prépare là où il va loger. Donc, l'INA peut loger les gens dans ses centres moyennant des frais d'entretien. Mais comme nous avons des frais d'entretien qui ont été payés pour les MINAFET, donc, nous considérons que si l'INA a des gens à loger, l'INA nous contacte, on regarde dans les calendriers les disponibilités qui sont là, eh ben les portes seront ouvertes. Ça sert à rien de faire du bruit parce que pour nous, il n'y a pas conflit. Ah, peut-être qu'il y a un autre agenda, il y a une autre pensée, peut-être d'autres vénalités qui ne nous concernent pas.
Baloufou Bakoupa Kaninda, je vous dis merci.
Notre invité, Baloufou Bakoupa Kaninda, directeur général du Centre culturel et artistique du pays de l'Afrique centrale, s'entretenait avec Blaise Chindani Kambala. Nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de nous avoir accompagnés. Nous vous invitons à rester à l'écoute pour nos prochains programmes et à continuer de vous informer avec nous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition sur Radio Kapi.